Aubrey Hale Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat. The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture un mercredi sur deux sur Radio G. Salut Seb.
Oui, salut Seb.
À la technique ce soir.
Ouais, Momo à la technique.
Salut les gars.
Salut.
Alors, il faudrait monter les... faut que tu montes les micros, Seb.
Eh ben, ils sont montés pour toi.
Non, mais on n'entend pas Paul.
Ah, on n'entend pas Paul.
Voilà. Alors, ce soir, on n'a pas Pablo, on n'a pas Romain. On les salue. Ils sont dans l'Est, ils sont dans le Sud-Ouest, ils se baladent pour les fêtes. Mais on a les gars, on a Paul et Paul.
Ouais.
Enchanté. Ça va ?
Ça va bien.
Je t'entends pas, Paul, dans ton micro. Vas-y, vas-y, reparle.
Ça va bien.
Ah ouais, c'est marrant, je l'entends pas.
Bah, je l'entends pas non plus, pourtant tous les potards sont montés.
C'est bizarre, ton micro marche pas, alors vas-y, prends l'autre. Ouais, vas-y, prends celui-là. Non, t'as pas besoin de te déplacer.
Les aléas du
direct. On a des super, on a du super matos.
Est-ce que celui-là fonctionne ?
Ah oui, on t'entend bien.
Ah bah voilà.
Bon, Paul, tu vas nous parler de quoi ce soir ?
Bah, je vais vous parler de Spawn, qui est un comics que j'ai reçu à Noël. Ouais. Et je vais vous faire une petite présentation aussi de Caris, puisqu'on écoutera un morceau de Caris tout à l'heure.
Le rappeur.
Ouais.
Et Paul.
Moi, je vais vous parler aussi de quelque chose que j'ai reçu à Noël. Donc, on va parler de géographie.
Oh, on aime ça.
On aime ça.
On aime l'histoire.
On aime l'histoire.
On aime la géo. On est éclectique et on va démarrer l'émission comme d'habitude avec un morceau de musique, Seb. Qu'as-tu dans ton panier ?
Ben, justement, Paul nous a annoncé ce petit morceau.
Ah, on va écouter Caris.
Et ben voilà.
Est-ce que tu veux qu'il présente Caris avant ou après ?
Ou on va présenter après plutôt. On va faire écouter, on va faire découvrir d'abord, dans un premier temps.
C'est quoi le titre ?
C'est donc le prix de la réussite.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
2K on the track. La réussite.
La réussite a un prix, on te voit mais on n'entend pas tes cris. Y'a que des faux autour de toi, je les regarde à travers un prisme. J'ai un gamos à 300 000 sur le compte, plusieurs et charmé. Tout le monde me connaît mais je me sens seul comme sur une île. À quoi sert d'être dans le grosse berline si je vois les larmes de Brooklyn? Les gènes ne mentent pas, toi et ton frère est ton seul vrai combat. Tu te réveilleras un matin en demandant où est papa. Je suis parti mais je suis toujours là pour toi, je serai un gilet pare-balles. L'avenir est breton, protège-toi des réseaux sociaux. Ne crois rien de ce que t'entends, crois la moitié de ce que tu vois. Edgar Allan Poe, on ne sait pas ce que la vie cache. Et on ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. J'ai une main remplie de gifts, dans l'autre je garde une ogive. Car la jalousie et l'aigreur amènent leur cœur à la dérive. Ils peuvent jacter et comploter, pour moi tout ça c'est le passé. Peu importe ce que t'as fait pour eux, ce ne sera jamais assez. Je mets le mode Sabia et de l'asphalte, je décolle. J'arrive à bon port avant que l'éclair ne touche le sol. J'ai déjà tout préparé, mes enfants ne manqueront de rien. Occupe-toi de l'avenir de tes gosses au lieu de penser au mien. Tu peux faire tes 5 par jour, y'a toujours un démon qui te suit. Tu peux être dans le plus grand délit, faire des cauchemars toute la nuit. Les ennemis sont de ton espèce, peu importe ce que tu fasses. Les médias et le bleu, qui avalent ton nom sur leur tableau de chasse. Ils ont tué le Galiléen et libéré Barabbas. Ils ont tué le Galiléen et libéré Barabbas. Je suis noir et barbu donc pour eux, je suis coupable à la base. Même sur une civière comme Tupac, ce sera un doigt niqué vorace. Toi tu dis que c'est grâce à toi, toi tu dis que c'est grâce à toi. Eux ils disent que c'est grâce à eux, allez écouter si j'en suis là. C'est grâce à tout le monde sauf à moi. Alors pourquoi dès que je m'arrache ils sont en chien et aux abois? Quand t'as grandi à ce vent, la vie t'es obligé de la ken. Obligé d'être un lion quand t'es entouré par des hyènes. Debout armé devant ma piscine, j'attends que ces fumiers reviennent. Debout armé devant ma piscine, j'attends que ces fumiers reviennent. La paix de l'esprit est un luxe que les millions ne peuvent pas payer. Non, S.E. S.E.
Alors Paul, c'était Caris, mais qui est donc ce Caris?
Alors Caris, c'est un rappeur maintenant qui a 43 ans. Il est né à Abidjan, mais il a la double nationalité française et ivoirienne. Et il connaît une forte popularité à partir de 2011 parce que c'est Booba qui va l'inviter sur un album pour faire un morceau. Et donc ensuite, Caris va sortir son premier album qui s'intitule Or Noir. Et dans lequel il y a le son Zo, et ça va vraiment le faire connaître. Et donc là, il a sorti son 7e album qui s'appelle Day One. Et donc il est sorti le 15 décembre. Et puis le prix de la réussite, c'est le morceau que je préfère dans l'album. Donc c'est pour ça qu'on l'a écouté.
Et pourquoi c'est ton morceau préféré de l'album?
Parce que Caris, il est connu pour être assez violent dans ses paroles, violent dans la musique aussi. Et là, ce morceau, comme il est assez calme et tout, c'est un peu paradoxal pour lui. Mmh. Et j'aime bien la musique.
Est-ce que tu veux dire que c'est l'album de la maturité?
Peut-être, parce que le prix de la réussite, on peut se dire peut-être que ça y est, il a fait un point sur sa vie et voilà.
Il vieillit, quoi.
Il vieillit, il a 43 ans.
Il change, il a des enfants.
Et merci pour les quarantenaires.
Après, il évolue, c'est un artiste, il évolue dans son art.
Mais il a été connu assez tard quand même, pour un chanteur assez tard, puisque en 2011, il avait 31 ans. Donc quand maintenant on voit qu'il y a des rappeurs qui percent dès 19 ans.
Et toi, Paul, tu connais Caris?
Oui. Pas personnellement, mais oui.
Et comment il va?
Il va bien, il a passé un bon réveillon. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas écouté son dernier album, personnellement.
On va écouter ça, merci Paul. Caris, le prix de la réussite.
Avec plaisir.
Ça marche. Et tout de suite, alors, comme d'habitude, on va parler de séries télé. Seb et moi, on a des... Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a deux équipes ce soir. Il y a l'équipe des Seb et l'équipe des Paul.
C'est
clairement identifié. Alors, Seb, tu vas nous parler de quelle série, toi?
Attends, je vais mettre un petit générique.
Ah, parce que moi, je vais parler de la géométrie de la mort. Ah, Momo, j'adore. Alors Momo, tu sais, tu as le droit de couper Spotify.
Mais oui, non, le seul problème, c'est que c'est sur le même canal. Alors donc, il y a des fois...
Non, tu peux mettre sur pause.
Oui, j'étais en train de chercher autre chose. C'est pour ça,
mais il bricole.
Je bricole. C'est une émission fait main, clé main.
C'est bien préparé, préparé. Il y a Momo, la technique.
Voilà.
Bon, je m'en vais.
Non, c'est toi le meilleur. Reste.
Bon, allez, parlons série. Eh bien justement, j'étais en train de chercher le petit générique qui va bien. C'est pour ça, un petit fond musical assez sympa, quoi. Franchement, je vais vous faire écouter ça, vous allez voir.
C'est quoi, c'est de la boxe? C'est du catch?
C'est du grand n'importe quoi, le générique. Déjà, rien qu'à voir, moi je suis pété.
Je sais pas, on dirait la France a un incroyable talent.
Ah ouais, non, mais là, c'est un grand délire. Déjà, moi, rien qu'en voyant le générique de cette série que j'ai découvert, honnêtement...
Alors, donne le nom que les auditeurs aillent voir.
Alors, la série, c'est The Peacemaker.
The
Peacemaker.
Ok.
Voilà. Déjà, moi, je sais pas comment ils ont fait pour tenir, parce que c'est les acteurs qui font donc le générique et qui dansent.
Ce sont des professionnels.
Ouais, ce sont des professionnels. Mais bon, à ce niveau-là, parce que là...
Donc c'est une histoire de super-héros, ça?
C'est des super-héros, tout à fait, puisque nous sommes dans l'univers de DC Comics. Et donc, The Peacemaker, c'est une série américaine qui a été créée par James Gunn, qui a fait l'adaptation des Gardiens de la Galaxie, mais aussi de The Suicide Squad, aussi en même temps. Et d'ailleurs, on se retrouve, on arrive directement à la suite, à l'annonce de cette série. Nous sommes donc juste après The Suicide Squad, donc laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leur mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X. Christopher Smith, alias The Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions. Et donc, on va le suivre dans ses nouvelles missions. Donc voilà. Alors au départ, le projet qui a donc été élaboré, c'était un peu un projet simplement pour s'amuser. En pleine période Covid, notre réalisateur savait pas trop quoi faire. On commence à occuper ses journées. Donc voilà. Donc il se dit tiens, on va créer une petite histoire gentillette. Et puis finalement, de cette histoire gentillette, il l'a présentée au président de DC Films. Et puis lui, il a fait
Banco.
Banco, c'est parti.
C'est parti. Et donc du coup, la série a commencé à être tournée et c'est une série qui a été donc produite pour la chaîne HBO Max. Donc voilà. Et puis donc on est parti là-dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, lors de la sortie de Suicide Squad en 2021, le film se termine par une petite scène post-générique qui introduisait justement la série, la possibilité de la série. Il laissait cette possibilité.
Il faut comme les Marvel, en fait.
Ouais, comme les Marvel. Bah, de toute façon, les deux se font la guéguerre, ils se tirent la bourre. Mais au final, on se retrouve. Et donc voilà. Et on va suivre, notre héros à travers 8 épisodes, qui composent donc cette première saison, qui a été réalisée en 2022. Des épisodes à durée variable, 39 minutes, 47 minutes, mais à chaque fois complètement déjanté. Et puis au final c'est tellement déjanté qu'on se laisse attraper par l'histoire et puis on suit. Et puis c'est vrai que, alors comme à chaque fois, on peut toujours faire le parallèle entre l'univers de Marvel et puis l'univers de DC. Et là, The Peacemaker, si on peut se faire un petit parallèle hasardeux, parce que quand même c'est très très hasardeux, The Peacemaker, c'est un petit peu le pendant de Deadpool. Alors c'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi en même temps, c'est-à-dire un mec qui réfléchit pas beaucoup, qui pense plus avec ce qu'il a entre les deux jambes et voilà, et puis avec les deux gros flingues qu'il a entre les mains, voilà. Donc donc c'est assez cocasse. Et puis du coup on suit cet univers complètement déjanté.
Ok, The Peacemaker. Voilà. Donc on peut voir ça facilement.
On peut voir ça assez facilement puisque actuellement c'est sur la plateforme. Alors on va la citer, malheureusement. Oui. C'est sur Amazon Prime. Donc donc voilà. Donc vous trouvez ça. Vous trouvez la saison complète, la première saison de 2022, puisque la deuxième saison, elle a été tournée cette année en 2023.
D'accord.
Et est-ce qu'on a une date pour la deuxième saison potentiellement ou pas encore?
Pour la sortie de la deuxième saison, je pense que ça sera pour début de l'année 2024, quoi, à peu près.
Ok.
Donc
bien, donc, prochainement.
Voilà. Prochainement, à suivre.
Merci Seb.
De rien.
Alors moi, je vais vous parler d'une série gratuite. Elle est sur Arte. Eh ouais, Arte TV. Il y a plein de bonnes séries. J'avais parlé de Polar Park en particulier et d'autres, mais là, c'est Géométrie de la mort. Alors, c'est une série qui date de 2019. Et elle est très intéressante parce que c'est une série polono-ukraino-tchèque.
D'accord, on n'est pas très loin du serbo-croate, quoi.
Alors voilà, non mais c'est très important en fait pour l'histoire. Ça se passe donc dans l'Europe, en Europe de l'Est. Donc 2019, on a 3 cadavres de jeunes femmes qui sont retrouvées. Donc un en Pologne, un en Ukraine, à Odessa, donc en Pologne à Varsovie, et à Prague en République tchèque. Et ces 3 femmes, elles ont été assassinées de la même manière et il leur manque un bras. Voilà, donc un bras a été sectionné. Alors les bras, on va les retrouver d'ailleurs, mais dispersés aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va obliger 3 policiers, donc une policière polonaise, un flic tchèque et un autre ukrainien, à travailler ensemble parce qu'ils vont se rendre compte que effectivement ces similitudes apparaissent dans leurs pays respectifs et que il y a un trafic, il y a comme une organisation là qui agit en fait entre ces pays. Mais puis ils découvrent petit à petit que c'est plus complexe que ça, que c'est peut-être soit un homme seul qui agit, soit une organisation type mafia, trafic, etc., trafic d'organes ou de personnes, esclavage moderne, tout ça. Et puis il y a des fausses pistes, évidemment. Ce serait trop simple.
C'est une série qui se passe de nos jours?
Oui, ça se passe complètement de nos jours. D'accord. Et donc c'est intéressant à plusieurs égards. Donc d'abord parce que ça se passe dans 3 pays européens que l'on connaît mal. Donc ça permet de les découvrir à travers de nombreuses images de ces villes et et même des campagnes aussi. En plus, on peut appréhender la complexité de l'enquête parce que le déroulé est quand même très bien écrit. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très bien décrit, c'est cohérent. Même les fausses pistes, en fait, elles ont un sens. C'est-à-dire que c'est pas juste une pure fausse piste pour nous égarer. Ça nous montre un petit peu la mentalité ou l'ambiance ou les dominations qui se jouent. C'est vachement bien fait. Donc c'est son rythme aussi qui est intéressant. Alors c'est assez sombre, c'est un thriller, c'est noir, c'est pas la grande joie, mais ça montre une enquête sur fond de corruption, de mafia, je vous disais, de trafic et de mannequins et de voilà. Mais il y a de la solidarité entre les policiers. Eux, ils sont convaincus ils ont les mêmes valeurs en fait, la même conception, on va dire, de leur métier. Et donc c'est 3 pays différents, on ressent bien les différences mais aussi les points communs, c'est assez plaisant. Donc c'est une série que je trouve très réussie. On a un peu été déçu par la fin. Je vous le cache pas que. Alors, c'est une série, c'est une mini-série, une saison, 10 épisodes.
Oui.
10 épisodes de 50-55 minutes. Mais c'est vrai que la fin, alors, bien sûr, il y a une résolution. C'est pas si simple. C'est-à-dire que le mobile du crime est pas si clair que ça, pas si évident que ça. Mais c'est une excellente série. Moi, voilà, Géométrie de la mort, c'est un peu racoleur, je trouve, comme titre. Parce qu'en fait, le titre, à l'origine, c'était Le principe de plaisir. C'était le titre en polonais, je crois, en VO. Voilà. Mais en tout cas, on voyage. L'ambiance est un peu, vous savez, comme dans les séries danoises. Vous voyez, The Killing, ou, voilà. Et puis, voilà, c'était. C'est pas cher, c'est sur Arte.
Mais, et surtout, il y a un truc qui est assez marrant, là. Quand tu dis, on retrouve les cadavres un petit peu à gauche et à droite.
Ouais, ouais.
Moi, je pense tout de suite à un coupable, c'est Raoul Wolfoni, hein, de toute façon.
C'est Raoul Wolfoni? Bah, oui. Alors, ça n'a rien à voir avec les tontons flingueurs.
Bah, mais pourtant, aux quatre coins de Paris, on va le retrouver.
Ah oui. Non, là, c'est plutôt l'ambiance Europe de l'Est, hein.
Ah, d'accord. Donc, c'est plus glauque.
Et est-ce qu'il y a une saison 2 qui a été annoncée?
Alors non, pour l'instant, il n'y a pas de saison 2. C'est vraiment une mini-série, une saison, 10 épisodes. C'est possible, hein. Alors ça date de 2019, donc il y a eu le Covid.
Ça peut être un argument pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer dans une longue série avec beaucoup de saisons et d'épisodes à rattraper. Là,
ouais.
Au moins,
là, c'est super.
C'est court, c'est efficace.
Voilà. Moi, je trouve que ça c'est un gros, gros avantage. Voilà, sur Arte, Géométrie de la mort.
Eh bien, très bien.
Je vous la conseille.
Eh bien, c'est pas mal tout ça. Et on s'écoutait un petit morceau de musique.
Avec plaisir.
Hein, un petit Revival Sons, éventuellement.
Revival Sons, c'est pour Florence. C'est Pressure and Time dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Et ouais. C'est parti. C'est Revolsons avec Pressure and Time, et puis Stupé Flip. Alors Paul, de quoi tu nous parles ce soir?
Eh ben, je vais vous parler de ce que j'ai reçu à Noël, puisque j'ai reçu le dernier numéro d'une revue française qui s'appelle Relief. Alors, Relief au pluriel. Relief, qu'est-ce que c'est? C'est une revue semestrielle de géographie. Donc, c'est une revue qui est assez dense, qui est à chaque fois consacrée à un thème précis, en fait. Donc, il y a deux numéros par an. Chaque année est consacrée à un thème en particulier. En 2023, c'est le thème de la glace. En 2022, c'était le thème terre et eau. En 2021, le thème flore. En 2020, c'était le feu. Vous avez compris l'idée. Et donc, Relief, c'est une revue, on l'a dit, assez dense, qui contient pas mal de choses. Il y a des interviews de spécialistes, de scientifiques du sujet concerné. En l'occurrence, le dernier numéro, plus précisément, il est consacré aux glaciers. Le numéro précédent était consacré à la banquise, donc vraiment le thème de la glace. Donc vous avez des représentations iconographiques, des cartes, des extraits aussi d'œuvres littéraires en rapport avec le sujet exploré. Alors, il faut pas se laisser intimider par cette revue, parce qu'au premier abord, ça peut paraître, notamment lorsqu'on l'a entre les mains, ça peut paraître un petit peu...
austère.
Effectivement, austère. Alors, visuellement, c'est très joli, mais oui, lourd, c'est le terme. mais j'invite vraiment les gens qui peuvent être amenés à en lire une, parce que ça peut se trouver en kiosque ou en librairie. Je crois que ça coûte 19 euros, si je dis pas de bêtises.
19,90.
19,90, merci. Donc vraiment, j'invite les gens à s'y pencher parce que c'est une mine d'informations assez impressionnante. C'est très intéressant et pour qui, alors en plus ça ne se destine pas seulement aux spécialistes ou aux professionnels du monde de la géographie. Vraiment, c'est vraiment tout public.
Donc il n'y a pas que des géographes qui écrivent dedans.
Il n'y a pas que des géographes, non. Et c'est pas une revue qui est destinée aussi seulement aux géographes.
D'accord.
Donc j'invite vraiment les gens à aller un peu au-delà. De la première impression qui peut être effectivement un peu intimidante, je parle en connaissance de cause, parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est vraiment super intéressant, ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu, par exemple, les problématiques environnementales dont on entend parler un peu partout. Et puis, voilà, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée aussi vers des œuvres de littéraire, vers des d'autres publications un peu plus pointues sur les thématiques qui sont abordées dans la revue.
Donc il y a des géographes, des scientifiques.
C'est ça.
Des historiens. Est-ce que ça peut intéresser aussi notre ami philosophe Pablo?
Je pense que oui.
Ah.
Je pense que oui. Et puis j'invite aussi les gens à aller sur le site internet de cette revue, puisqu'en fait Relief c'est même une maison d'édition. Donc si vous tapez Relief au pluriel, attention revue ou Relief édition, vous allez pouvoir constater que non seulement vous pouvez commander aussi d'anciens numéros de la revue sur leur site, mais également avoir accès à tout un tas d'autres produits. Ils éditent notamment un certain nombre d'ouvrages en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc des ouvrages assez intéressants, qui sont très beaux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, ça peut donner des idées de cadeaux. Pourquoi pas de Noël, d'anniversaire, pour des gens qui aiment les cartes, qui aiment la géographie. Ça peut vraiment faire quelque chose de sympa.
Donc c'est une revue sur la nature, l'exploration.
C'est ça, ça mêle en fait la géographie physique, la géographie sociale, urbaine, rurale. Tout ça dans une seule et même revue, assez massive. D'ailleurs, vous pouvez même en fait sur internet ou dans certaines librairies la retrouver plutôt sous la dénomination de MOOC, en fait, la contraction entre magazine et book. Moi, j'avoue que je parle de revue.
En fait, c'est
le nom de la revue.
C'est aussi bien, c'est plus joli, moi je trouve.
C'est ça. Mais en tout cas, pour les gens qui cherchent, vous pouvez en fait tomber sur ça avec cette dénomination.
Faut dire aux gens que la couverture est très belle, hein.
Oui.
Quand on dit austère, attention, ça veut dire que c'est très scientifique, mais c'est quand même assez joli.
C'est pas que scientifique, mais oui, visuellement, il y a vraiment une attention particulière qui est accordée
aussi,
à l'aspect visuel de la revue.
Ouais.
Oui, mais la géographie, c'est aussi le regard.
C'est vrai.
C'est ça, le paysage.
Le paysage.
C'est vrai, mais c'est vrai que c'est aussi une revue qui est assez épaisse. Donc c'est vraiment quelque chose qui, alors c'est pas une revue que vous allez lire vraiment, que vous allez lire d'un trait en une seule fois. C'est plutôt quelque chose qu'on va picorer un peu au fur et à mesure. On va lire un petit peu la revue, lire un article, la laisser, puis y revenir ensuite quelques heures, quelques jours après.
Elle existe depuis combien de temps?
C'est une revue qui a plusieurs années maintenant, pas loin peut-être de, j'aurais dit entre 5 et 10 ans.
Ah oui, c'est pas vieux.
C'est quand même pas vieux, non, effectivement.
Ouais. Et cool, donc, tu disais, ça sort, un nouveau numéro sort tous les combien de temps?
C'est semestriel, c'est deux numéros par an, donc je crois que c'est novembre et mai. Enfin, mai et novembre, même si on veut se placer dans l'ordre chronologique. Donc, disponible en librairie, en kiosque, marchand de journaux, donc 19,90.
Et par exemple, est-ce qu'on peut s'abonner pour le recevoir après?
On peut s'abonner, alors c'est des démarches qui se font en ligne, mais oui, on peut s'abonner, vous recevez directement les numéros chez vous.
À condition d'avoir une boîte à lettres renforcée.
Oh. C'est vrai.
Bon, bah, belle découverte, merci Paul.
Oui, très
merci,
belle découverte, Paul. Je recommande.
Merci.
Merci, merci.
On enchaîne avec les comics ?
Bah ouais, ouais. Donc, bah moi, pour Noël, j'ai reçu le premier volume de Spawn, qui s'intitule Résurrection. Et c'est un personnage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que bah, je me baladais avec mon père au repère des héros. Et quand on est tombé sur le comics, bah, le personnage, il m'a tout de suite plu. Et donc c'est un donc Spawn c'est un personnage créé par Todd McFarlane en 1992 aux États-Unis et il y a eu une adaptation cinématographique en 1997 qui a pas beaucoup plu au grand public. La chaîne américaine HBO la même année ils ont fait aussi une adaptation en dessin animé. Et là donc le film il va être réadapté en 2025 et c'est Jamie Foxx qui est prévu dans le rôle de Spawn.
Et mais qui donc, est Spawn ?
Donc Spawn, bah, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce personnage. Donc au début, c'est un humain, Al Simmons. Il est militaire et il va réaliser quelques actions pas très bonnes dans sa vie de militaire. Et en fait, il va être tué, puis immolé par ses généraux. Et donc, il se retrouve en enfer. Mais il va signer un pacte avec le diable qui dans l'histoire s'appelle Malebolgia et donc il va signer un pacte dans l'espoir de retrouver sa femme Wanda pour la revoir une dernière fois puisque bah désormais il peut plus la voir et donc en fait ce pacte donc il va être enfermé pendant 5 ans en enfer, il va être torturé par le diable Malebolgia pour attiser vraiment une haine dans sa personne et donc ensuite il va être renvoyé sur Terre avec une mémoire meurtrie et donc sous la forme d'un Hellspawn qui est la créature assez particulière et donc en fait le personnage principal Al Simmons il se rend compte que il a toujours un corps donc immolé et son visage il ressemble un peu à celui de Deadpool avec donc cette peau voilà cramée
ce qu'il faut dire que Spawn c'est un personnage de DC Comics.
Oui, c'est un personnage
de DC voilà. Concurrent de Marvel.
Et en fait, il y a aussi des histoires où Spawn, il est allié avec Batman. Mm. Et donc, tous les deux, ils vont combattre.
Oui, il y a des comics sur Batman-Spawn. Ouais.
Oui,
tout à fait. Ouh, découverte de ce personnage.
Oui, bonne découverte. Oui.
Est-ce qu'au tour de la table, vous avez vu ce film Spawn ?
Alors moi, j'ai vu le film des années 90.
Oui.
Oui, alors on était tous très déçus à l'époque. Le film n'est pas aussi bien que la série de comics, en fait. Parce que la série de comics, c'est vraiment c'est un film d'horreur en fait, c'est sombre, c'est un personnage qui vient de l'enfer, enfin parce que c'est pas Hellboy parce que il vient de l'enfer aussi, mais Hellboy il est plutôt sympa quoi. Spawn c'est un anti-héros.
En fait. C'est un peu dans le même style que Batman quoi, ouais. Niveau ambiance.
Et le film il est plus grand public en fait. C'est pas la même ambiance dans le film.
Mais là apparemment dans le film prévu pour 2025 ça va être assez sombre, assez violent et tout.
Voilà, le film qui est prévu aujourd'hui va être plus proche du comics, je pense, que celui des années 90, qui était plus pour les ados quoi.
Ouais, pour les ados et puis pour faire rentrer du fric hein, surtout
ouais,
dans la boîte. Hein.
Et puis c'était pas encore en 97 là quand le film est sorti, je crois que c'est 97. Il y avait pas encore la mode la mode des super-héros était pas revenue encore. Tu vois parce que les premiers c'est revenu avec les premiers Spider-Man de Sam Raimi et c'est au début des années 2000. Donc en 97, on n'est pas encore.
C'est juste avant.
C'est juste avant. Un tout petit peu trop tôt.
Il y avait le Ghost Rider aussi en même temps qui avait fait.
Ghost Rider, c'est après.
Ouais. C'est après. Mmh. C'est juste après aussi
ouais,
en même
c'est
temps.
Ça. En fait, c'est les premiers Spider-Man, les premiers Iron Man qui relancent en fait la mode des comics et des films de super-héros.
Oui, il y avait les films des Quatre Fantastiques aussi au même moment.
Ouais, au même moment. Mais tout ça, c'est début des années 2000.
Oui, donc effectivement,
le Spawn, il est un peu avant. Puis comme il n'est pas connu, il n'a pas eu trop de succès parce qu'il n'est pas très connu, quoi. Alors, s'il y a eu des Batman, par contre. Alors, si, par contre.
Ça, les Batman, ils avaient bien fonctionné.
Il y avait Tim Burton.
Oui.
Et puis, il y en a eu d'autres qui étaient moins bien, mais il y a eu des Batman qui ont bien marché. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Spawn parce que c'est DC Comics en fait.
Oui, mais ce qu'il faut dire aussi en même temps là, si on continue le débat là par rapport à ça, c'est que Batman aussi, comme il a eu plusieurs séries animées aussi qui ont été
géniales,
mais c'est justement quelque chose qui a marqué vraiment cette génération.
Mais bon, le film de 97 c'est pas le meilleur quoi. Donc espérons que le remake sera.
Ouais, puis avec Jamie Foxx, un acteur assez connu, il a de l'expérience.
Ça devrait être pas mal.
Ça devrait être pas mal.
Merci les gars pour ces découvertes.
Ouais, merci, merci. Un petit morceau de musique maintenant. Ouais. On va donc faire, je vais vous proposer une petite découverte aussi en même temps, que j'ai faite aussi. Donc un certain monsieur qui s'appelle Teddy Swims et qui va nous chanter donc justement Laws Control dans Bang Geek Mafia.
Sur Radio G.
5.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti, et c'est maintenant.
C'est maintenant.
Si ça veut dire
c'est maintenant.
Et maintenant.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, like magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees.
Ça, Seb.
Ben, c'était pas mal. Donc, c'était Teddy Swim dans son premier album, Laws Control. Voilà, un petit peu de musique calme, et puis on va repartir tranquillement. Je sais pas, un petit générique éventuellement.
Mais c'est toi qui gères.
C'est celui-là.
Pardon.
Oh, brother, you's a dead man.
Toujours dans la politesse, hein, dans le
toujours
respect.
Toujours dans le respect, bah justement. Alors on va parler un petit peu bande dessinée. Première bande dessinée, La France de l'ombre aux éditions Les Arènes BD de Pierre Boisserie, Didier Convrard et Stéphane Douet. Alors là, un petit pavé, hein, un petit assez sympa, une bande dessinée assez sympa. 1945, sous l'influence du général de Gaulle, les Français divisés ont dû unir leurs forces pour reconstruire un pays épuisé par 5 années d'occupation. Collaborateurs du régime de Vichy, résistants, communistes et gaullistes, les ennemis d'hier vont devoir travailler ensemble à l'édification politique et sociale de la nation. Librement adapté du roman de Gérard Deltey, Les années rouges et noires est la véritable saga politique, historique et sociale des 30 glorieuses, des règlements de compte de la libération à la guerre d'Algérie en passant par mai 68. C'est aussi un thriller aux rebondissements multiples. De Pétain à Giscard, cette BD retrace 30 ans de politique française entre amitiés de guerre, hommes d'influence et réseaux de pouvoir. Donc voilà, ça c'était le pitch de la quatrième de couverture. Et franchement, avoir la couverture comme ça, c'est vrai, on est la France de l'ombre, c'est très sombre, hein, la couverture elle est noire. On reconnaît quand même bien aussi le drapeau tricolore si on tourne de l'autre côté. Hein, c'est pas fait anodin.
Le blanc-rouge.
Le blanc-rouge. Mais l'histoire est superbement bien faite, on se laisse prendre et on a envie de savoir. Et franchement, on passe un super moment avec cette bande
J'ai
dessinée.
Envie de la lire.
Mais je l'avais prévu.
Ah, tu me la prêtes.
Je te la prête.
C'est sympa.
Donc voilà. Donc La France de l'ombre, aux éditions Les Arènes BD, de Pierre Boisserie, Didier Covrard et Stéphane Douvet.
D'après le roman de Gérard Deltey.
Non.
Gérard Deltey qui a écrit pas mal de polars aussi.
Ouais. Mais c'est, on a une base de polar et qui est vraiment intéressant. Donc, graphiquement, c'est pas mal aussi en même temps. Ça se laisse lire avec un grand, grand plaisir. Après, j'ai deux autres bandes dessinées. Je les ai pas emmenées sur place parce que la première, franchement.
Elle pèse 3 kilos.
Oui, bah, on n'est pas loin des 3 kilos à peu près. Puisque c'est Boule et Bill l'intégrale. Alors, les 24 premiers tomes de Boule et Bill, qui étaient parus aux éditions Dupuis. 24 tomes réunis en un seul tome. Voilà, là, autant vous dire que là, on a la matière.
Hein.
On a la matière. On a 1200 pages, à peu près.
La vache.
La vache, hein, c'est énorme.
Faut aimer Boule et Bill. Hein.
Eh ben, crois-moi, c'est carrément génial, parce qu'en plus, on voit l'évolution du dessin, puisqu'on a les premiers Boule et Bill qui apparaissent, hein, c'est-à-dire les premières publications. En plus, l'édition rassemble par ordre chronologique de parution de publication dans le journal de Spirou des différentes aventures. Donc, c'est carrément super. C'est comme ça qu'on voit l'évolution graphique aussi de Boule et Bill. C'est vrai que le premier Boule et Bill que l'on voit, qui est présenté là dans cette intégrale, bah ça n'a rien à voir.
Ça fait pas envie.
Bah, honnêtement, on se dit ouh là. Et puis au final, c'est carrément génial quoi. Donc voilà, on retrouve avec plaisir ces deux personnages. C'est un petit investissement, mais bon, voilà, honnêtement, 59€, 24 albums, vous faites le calcul à 10€ l'album.
Je pense c'est pas cher.
C'est pas cher payé. Donc voilà.
C'est super. C'est super. Moi, j'aimais bien Boule et Bill quand j'étais petit. Après, ça fait très longtemps que j'en ai lu. Hein.
Eh ben, je les relis avec plaisir, franchement.
Et je confondais toujours. Je savais jamais qui était Bill et qui était Boule. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris.
Mais il y a un piège.
Ouais,
il y a un piège. Parce que
bon, Boule, c'est le petit gars.
C'est le petit gars. Tout à fait.
Et Bill, c'est le chien.
Et oui. Tout à fait, tout à fait.
Les gueules les confond.
Oui, bah d'ailleurs, eux aussi se confondent au bout d'un moment. Et puis d'ailleurs, est-ce vraiment un chien? Parfois, on se pose la question.
Il est aussi intelligent que le petit gars.
Eh oui, qui n'a pas eu de cocker ne peut pas comprendre. Et enfin, dernière bande dessinée. Alors là, c'est une intégrale. C'est une intégrale aussi en plusieurs tomes. Hein. Donc là, pour l'instant, on est 3 tomes.
Il s'est fait plaisir à Noël. Hein.
Ah, moi, je me suis fait plaisir. Je me suis fait vraiment un vrai plaisir. C'est donc l'intégrale de Cat Size.
Ah, oh là, Cat Size. Moi, je connaissais le dessin animé.
Eh ben oui, parce que on connaît le dessin animé.
On connaît, nous. Les jeunes, là, non?
Je crois que
des
je
années
ce que
80.
C'est, pas beaucoup plus.
Cat Size!
Ouais, Cat Size, effectivement. Eh bien, moi, je vous conseille le générique. Je vous conseille aussi de lire le manga. Là, actuellement, il y a 3 tomes qui sont sortis. Le 4e tome sortira, justement, le 17 janvier. Donc sur cette intégrale. Donc effectivement, on va suivre les aventures des 3 sœurs Ryui, Itomi et Ai,
Kiatsu Ei.
Ouais.
Ça veut dire l'œil de chat.
Mais
ah bah oui, c'est bah bien oui. traduit. Pour c'est une fois, c'est bien traduit.
Non, mais la traduction est pas mal. Qui sont donc les gérantes d'un café le jour et d'insaisissables voleuses d'œuvres d'art la nuit, annonçant leur futur forfait avec une carte de visite signée Cat Size. Ces cambrioleuses de charme s'attirent toutes les foudres des forces de l'ordre. Et donc, c'est quelque chose qui a été réalisé par Tsukasa Ojo. Ou Ojo. Voilà.
Ouais, et parce qu'il n'est pas espagnol.
Non, il n'est pas espagnol, il est bien
Ojo.
Il est bien japonais, puis surtout on le connaît pour une autre série qu'il a fait après Cat Size, puisque Cat Size va l'occuper pendant 4 années. Famille générique.
Ah, les années 80.
Là, les années 80, c'est
générique.
Ouais, mais il faut quand même savoir pour information. Nous, on a connu la série animée. Mais cette série animée a été réalisée presque en même temps que la sortie du manga papier. Le manga papier a tellement bien fonctionné qu'on a voulu tout de suite faire une adaptation. La première adaptation date de 83. La série Cat Size, c'est entre 81 et 85. Et la deuxième grande œuvre, justement, de ce mangaka, eh bien, c'est un certain City Hunter. Ça, vous connaissez un peu plus.
Oui. Ah, moi, je connais Cat Size.
Alors, City Hunter, tu connais pas?
Non.
Alors, tu connais plutôt le nom français.
Ah, voilà.
Nicky Larson.
Ah oui, oh là là. Nicky Larson.
Oui,
oh là
ben
là
voilà.
Ah, moi, je... Non, moi, j'étais pas fan. Non, j'aimais pas trop Nicky Larson.
Oh, pourtant, c'est génial, ça aussi. D'ailleurs, on reconnaît bien le dessin. Donc, voilà. Donc, des intégrales, super intéressantes. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent au sujet, pourquoi pas.
Mais c'est
voilà.
Super. Merci, Seb.
Mais de rien.
Une petite musique.
Alors, une petite musique, j'ai pas eu le temps de préparer.
C'est Paul qui a choisi Peeping Tom.
Oui, alors.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pendant que
oui,
Seb,
voilà,
la technique?
Voilà, je peux pas alors, parler.
Réveille Momo.
C'est pas une nouveauté, donc pas que l'année qui est en train de se terminer n'ait pas été riche en découvertes musicales.
Sans froid, écoutez, par exemple.
Mais écoutez, là, on va s'écouter donc un morceau d'un des nombreux projets de Mike Patton. Donc
chanteur de Face No More.
Entre autres, oui. Donc un projet qui s'appelle Peeping Tom, avec lequel il a sorti un seul album
2006,
en 2006. Ouais. 2006 avec de multiples collaborations, notamment pour les plus connus, Massive Attack, Norah Jones aussi, ouais. Et bien d'autres encore. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir
Neighborhood,
ce projet.
Spaceman.
C'est ça, ouais. Exactement.
C'est Radio Mafia sur Radio G.
100.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti, c'est maintenant, théoriquement.
Donc c'était Peeping Tom, Your Neighborhood Spaceman, back in 2006 sur Radio G.
Et maintenant, on va écouter pour Romain, qui est vraiment un auditeur fidèle.
Tout à fait.
On va écouter Blur, You've Got a File on You. Non, c'est We've Got a File on You, dans Van Geek Mafia sur Radio G.
5.5, la radio qui fait point.
Et pour Romain et son papa. Et ouais, comme dit Romain, ça donne toujours un coup de fouet.
Eh bien, c'est
merci,
pas faux.
Merci, les gars, d'avoir accepté qu'on passe comme ça, qu'on glisse Blur dans notre programmation, qui est quand même très très calée au départ. Hein, donc,
c'est vrai, extrêmement calée.
Mais on sait s'adapter. L'émission est bigrement sympa, comme disent les
tout
gens.
Tout à fait. Tout à
alors,
fait, tout à fait.
On
tout
voulait
à fait.
Finir l'émission avec Black Sad, parce qu'on aime Black Sad. C'est une série de BD hein, qu'on suit depuis le début des années 2000. Là, est sorti le dernier tome et on voulait vous en parler parce que c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce que c'est Black Sad ? C'est l'histoire de John Black Sad. Je crois que c'est John son prénom, si je m'abuse.
Oui, tout à fait.
Qui est un détective privé, qui mène des enquêtes incroyables dans une ville qui ressemble beaucoup à New York.
C'est ça, dans les années 50.
50, ouais. Ah oui. Et alors, il faut dire quand même aux auditeurs, si vous connaissez pas, que ce sont des animaux, en fait, hein, qui ont une morphologie humaine, parce que Black Sad, c'est un chat. C'est un chat noir. Et tous les personnages sont des animaux, des chiens, des renards, etc. Et c'est extrêmement bien dessiné. Et c'est fait par des Espagnols, hein, qu'on apprécie, qui s'appellent Canales et Guarnido.
Si.
Si. Diaz Canales.
Diaz.
Y Guarnido, c'est donc dessinateur et scénariste. C'est toujours les mêmes d'ailleurs, hein, depuis
oui,
le début.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a absolument pas changé. On a toujours la même production et la même qualité graphique aussi en même temps. C'est pour ça que ça prend du temps entre chaque.
Alors moi, je sais que je les ai tous lus maintenant. J'ai beaucoup aimé. Il y en a un que j'avais trouvé peut-être un peu moins bien. Je me souviens plus lequel c'était. Celui qui était jaune.
C'est Amarillo.
Amarillo. Enfin, ça veut dire jaune justement. En espagnol. Oui, parce qu'au départ, il y a quand même des thématiques de couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le bleu, le jaune. Alors sur les deux derniers, parce que là, on va en parler maintenant, hein, les deux derniers, enfin, le ça, dernier est en deux tomes.
C'est ça, c'est un diptyque, en fait. Il y a le sixième tome, techniquement, qui est sorti fin 2021, et le septième, qui vient boucler, donc, du coup, ce diptyque, qui est sorti, là, à la fin de l'année.
Et il a fallu attendre un bon moment entre la réalisation. Et d'ailleurs, entre le sixième et le cinquième et le sixième, on a attendu aussi un grand nombre d'années. On se posait la question, est-ce qu'ils allaient continuer ou pas?
Oui.
Mais,
oui, c'est vrai que moi je pensais que c'était arrêté en fait.
Et non.
Et puis finalement il y a eu le tome 7.
Et oui.
En deux parties. Alors ça s'appelle Alors tout tombe. Hein, Alors tout tombe, tome 1 et puis tome 2. Alors de quoi ça parle Alors tout tombe les gars? Est-ce que vous en souvenez? Moi je viens de le lire mais dites-moi. Non, vous avez pas?
Amorce, parce que là, je peux te parler des autres albums. Oui, celui-là, je l'ai lu rapidement.
Alors, je vous fais le pitch. Alors tout tombe. Donc, c'est toujours Black Sad, notre ami détective privé. Il est chargé de protéger le président d'un syndicat. Mais ce syndicat, il est infiltré par la mafia de New York. Voilà. Mm-hmm. Et donc, il va mener une enquête qui s'avérera particulièrement délicate et riche en surprises. Mais il y a aussi, dans cette histoire, donc pour la première fois en deux tomes, hein, deux albums, on découvre le quotidien des travailleurs, on découvre le quotidien des gens chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville.
C'est ça, la toile de fond tout au long des deux albums, c'est le développement urbain.
Exactement, géographie. Voilà. Géographie urbaine. Et aussi, développement de la pègre, un petit peu.
Accessoirement,
comme toute la construction.
Et ça, c'est très original. Aussi, le théâtre qui est évoqué dans cette BD, j'ai beaucoup apprécié le milieu du théâtre. Donc, il contraste complètement. Donc, on a un peu l'ombre et la lumière, en fait. Vous voyez, la mafia, le théâtre, le monde souterrain et les projecteurs. Enfin, c'est assez sympa. Le monde d'en bas et celui d'en haut aussi. Et avec l'ambitieux Solomon, le maître bâtisseur de New York. Donc moi, je peux pas trop tout vous dire, mais c'est vrai qu'il y a une description de la cité là qui est géniale. Comme tu disais, il y a la géographie. C'est un hommage au roman noir, toujours Black Sad, hein. Et c'est une chronique sociale cette fois-ci. Alors tout tombe.
C'est ça, mais on ne peut pas trop en dire sans
spoiler,
sans divulguer.
Divulgacher. Et il ne faut pas oublier non plus en même temps qu'il y a encore un lien avec les albums aussi antérieurs.
Oui,
c'est le retour de
personnages. Si, le retour de personnages.
Mais je n'en dirai pas plus.
C'est vrai, c'est vrai. En particulier, une femme. Bon, une femme. Alors, est-ce une femme ou est-ce un chat? Je ne sais plus.
Une femelle.
Voilà. Donc, scénario efficace, on est d'accord?
Tout à fait.
Graphisme impeccable.
Tout à fait.
Ils sont forts, ces Espagnols. Couleurs chatoyantes.
Couleurs chatoyantes, effectivement, les couleurs, elles sont bien. Pour ceux qui aiment aussi James Ellroy, eh bien, on se retrouve un peu plongé dans cet univers, hein, justement, des années 50, quoi, années 30, années 50.
C'est vrai.
On est sur cette Amérique. De toute façon, c'est très, très, très. Il y a un côté historique énormément, hein, sur la société américaine des années 50 qui est très présent, hein, de toute façon.
Alors, si vous aimez Walt Disney, par contre, on est très, très loin des dessins animés de Walt Disney. Hein.
Là, ça n'a strictement rien à voir.
On est plus sur de la BD pour adultes. Et c'est vrai que c'est un régal.
C'est un régal.
Moi, j'avais découvert avec le premier tome, donc il y a longtemps. Je ne vous le cache pas, c'était il y a peut-être 20 ans.
Plus de 20 ans.
Et moi, le premier tome m'avait vraiment soufflé, quelque part entre les ombres, je crois que c'est.
Oui.
Et en fait, il y avait des planches, mais vraiment, mais magnifiques. Enfin, il y a toujours, d'ailleurs, si vous lisez le premier tome, des planches magnifiques avec des mouvements de personnages. On se croirait dans un film. En lisant une BD, on se croirait dans un film, en train de regarder un film, quoi. C'est vraiment génial.
C'est une immersion complète du lecteur finalement dans cet univers et on oublie aussi ce côté animalier des personnages finalement puisqu'ils ont un côté aussi très très humain.
C'est vraiment divertissant de voir ce côté là.
Ouais, c'est très divertissant et c'est vrai que c'est pas gênant. En fait, on s'habitue très vite à ça parce qu'ils sont très humanisés. Enfin, c'est vraiment anthropomorphe.
Tout à fait.
Donc on vous conseille toute la série Black Sad. Ah, alors il y en a quand même 7 tomes. Bon, mais les deux derniers, enfin non, le dernier tome en deux parties plutôt, hein, on vous les conseille plus particulièrement, parce qu'il est vraiment excellent. Alors tout tombe.
Et comme je
chez Dargo.
Chez Dargo, et comme je suis toujours sur les intégrales, il faut savoir que les premiers tomes, on les trouvait aussi en intégrale.
Et voilà.
Ça, c'est intéressant.
Oui, parce que, finalement, ça fait cher d'un coup, mais si on divise par le nombre d'albums, c'est moins cher.
C'est moins cher.
Voilà, ils sont forts, hein, Diaz, Calanes y Guarnido.
Et donc, il y a aussi trois hors-série.
Ah oui, il y a des hors-séries, vas-y.
Ouais. Il y a trois hors-séries qui sont sorties en 2001, 2005 et 2010.
Alors, comment ils s'appellent?
Les Dessous de l'Enquête, donc en 2001. Mm-hmm. L'Histoire des Aquarelles en 2005. Et L'Histoire des Aquarelles, tome 2, en 2010.
Super, merci Paul.
Super. Je vous propose un dernier petit morceau de musique.
Mais oui, c'est Slow Dive.
Tout à fait.
Avec Kisses.
Avec Kisses.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
100.5, la radio qui fait le point, ouais.
Album.
Rolling on those good love.
Alors c'était Slow Dive avec Kisses, un des meilleurs albums de 2023, avec Judiciary qu'on va écouter tout de suite,
ça, pour terminer
avec
l'émission.
Sang Froid aussi qu'on adore, les groupes, le groupe nantais. Alors Judiciary c'est quoi?
C'est un groupe de hardcore dont on va écouter un morceau pour terminer l'émission, issu de leur dernier album sorti cette année, un album vraiment très bonne facture.
Alors baissez le son,
restez à l'écoute, oui.
Et on se dit à dans 15 jours, salut.
À dans 15 jours et à l'année prochaine. Salut.